L'enjeu un peu caché, c'est de légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara, dont au moins la moitié de la population conteste l'élection présidentielle, et surtout une bonne partie son arrivée au pouvoir en avril dernier, avec l'aide des FRCI de Guillaume Soro, de la Force Licorne et de l'ONUCI. Mais malheureusement pour lui, l'opposition fidèle au président Gbagbo, donc le Front Populaire Ivoirien, s'est refusée à participer à ces législatives.
Vous voulez dire que du coup, la légitimité n'y sera pas?
Disons que ça sera une élection tronquée, où ses partisans seront forcément élus à 100%. Ceci dit, il y a un enjeu interne à son camp, entre les candidats de son parti, le RDR, et les candidats de son allié, Henri Konan Bédier, c'est-à-dire le Parti démocratique de Côte d'Ivoire.
Et effectivement, ils vont en ordre dispersé alors qu'ils sont alliés. Quelles conséquences ça peut avoir?
Oui, ce sont des rivalités internes. C'est vrai que le parti de M. Ouattara voulait s'adjuger au fond les deux tiers des sièges des députés et que les partisans d'Henri Konan Bédier n'ont pas accepté et présentent leur candidat. Alors, à mon avis, il y a deux cas de figure. Hein. Soit ça se passe vraiment à l'intérieur du camp Ouattara et on va compter les points. Hein. Le parti de M. Ouattara, à l'échelon national, représente à peu près un tiers des votes et celui d'Henri Konan Bédier aussi. Soit, un peu pour jouer de cette opposition, les partisans de Laurent Gbagbo vont se rapporter sur les candidats d'Henri Konan Bédier et donc vont essayer indirectement de lutter contre Alassane Ouattara. Personnellement, je ne crois pas cette participation indirecte.
Donc en fait, pas de conséquences directes dans la direction du pays en tout cas?
Oui, tout à fait, puisque ça sera au fond une chambre d'enregistrement au sens où il n'y aura pas d'opposition et elle avalisera à tous les coups les décisions du pouvoir exécutif, donc du gouvernement de M. Ouattara.
Et justement sur ce boycott du Front Populaire Ivoirien, est-ce qu'on peut en définir évidemment les causes, mais aussi les conséquences?
Bon, les causes immédiates, c'est évidemment le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye, puisque jusqu'à très récemment, ses partisans estimaient qu'il y avait des chances de libération et de réintégration dans le champ politique. Mais en fait, la décision avait été prise avant le transfert, il y a environ un mois, puisqu'il se refusait, au fond, à cautionner le régime, tant qu'il y aurait non seulement Laurent Gbagbo, mais à l'époque, la centaine de prisonniers politiques qui sont plus ou moins déportés en zone nord, en zone ex-rebelle. Et ils espéraient pouvoir peser sur le pouvoir en jouant de cette capacité d'abstention, mais évidemment, les négociations n'ont pas abouti. Le FPI s'est retiré et en même temps, c'est sans doute la fin du processus de réconciliation, en tout cas pour un temps.
Précisément sur ce processus de réconciliation, on en est où? Et là, qu'est-ce qui va se passer avec ce boycott?
Il y a une commission nationale sous la direction de l'ancien Premier ministre Konan Bani. Mais cette commission nationale, d'une part, n'a pas les moyens autonomes de fonctionner, est plus ou moins dépendante des volontés de M. Ouattara. Et de toute manière, depuis le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye, l'opposition, dont le Front Populaire Ivoirien, s'en est retirée. Donc ça devient, au fond, une réconciliation fictive.
Pour en revenir cette fois à la comparution ce lundi de Laurent Gbagbo à la CPI, est-ce qu'on peut justement revenir sur cette justice internationale qui interfère dans les affaires ivoiriennes? Comment c'est vécu en Côte d'Ivoire, évidemment par ses partisans, mais aussi par l'ensemble de la population?
Il y a, à mon avis, deux réactions. L'une immédiate, c'est quand même une certaine amertume, une tristesse pour ses partisans, un certain désespoir. Et ce qui a frappé les observateurs, que ça va au-delà du Front Populaire Ivoirien, puisqu'il y a des membres du PDCI qui ont exprimé un peu une certaine compassion, voire des regrets, de ce transfert. Maintenant, à terme ou à moyen terme, on se demande si une certaine violence politique ne va pas devenir possible, étant donné qu'au fond, le régime Ouattara se prive d'un otage, du plus important des otages, puisqu'il reste quand même des prisonniers. Et que donc, tant les 300 000 Ivoiriens qui sont réfugiés au Libéria et qui ont perdu leurs terres à l'ouest, que l'opposition plus politique qu'il y a au Ghana, voire les communautés ivoiriennes à l'étranger, ne vont pas se laisser tenter par des formes de contestation plus radicales du régime Ouattara.
Qu'est-ce que ça peut engendrer, ces formes de contestation qui sont quand même dans la diaspora, si j'ai bien compris?
Vous savez, le jour du transfert de Laurent Gbagbo, Des amis m'ont téléphoné d'Abidjan. La ville était vraiment de nouveau sous occupation militaire comme en avril, puisque les FRCI, l'armée de Ouattara, la force des camps françaises et l'ONUCHI s'étaient déployés avec des hommes en armes, des tanks, des hélicoptères pour prévenir en quelque sorte toute contestation dans la capitale qui est très largement favorable, c'est contesté par personne, à Laurent Gbagbo. Bon, maintenant, ce qui est très dangereux au fond pour la paix civile ou ce qui en reste, c'est la présence de petites communautés d'Youla, donc des nordistes de Côte d'Ivoire ou du Sahel, du Burkina par exemple, qui sont dispersés dans des villages dans tout le sud de la Côte d'Ivoire. Et éventuellement, il y a un risque peut-être de bouc émissaire ou de guerre civile. Certains vont jusqu'à parler de risque d'une situation à la rwandaise. Si les esprits ne trouvent pas une contestation politique, disons, légale et un processus électoral.
Comment est-ce que vous analysez le fait que justement Laurent Gbagbo soit déféré et comparaisse ce lundi? Est-ce que ce n'est pas quand même une maladresse ivoirienne, mais aussi de la communauté internationale?
Oui, tout à fait. À mon avis, si la justice ivoirienne avait essayé de traiter le cas de Laurent Gbagbo, voire peut-être à l'inverse un processus de réconciliation nationale qui l'aurait amnistié et réintégré dans le jeu politique, disons, il y aurait beaucoup plus de chances de préserver la paix que de l'envoyer à La Haye, ce qui est une humiliation à la fois pour lui et ses partisans, et disons encore une fois pour environ la moitié du pays, quel que soit le résultat réel des élections. Il est quand même l'ancien président, voire le président élu selon le Conseil constitutionnel. Donc c'est la première fois que la CPI va jusqu'à inculper quelqu'un qui a le statut de Laurent Gbagbo. Et par contre, la CPI est intervenue systématiquement, plus de 80%, dans des cas africains, en allant jusqu'à décapiter l'opposition comme en République démocratique du Congo en inculpant Jean-Pierre Bemba. Et pour Jean Ping, qui dirige la Commission de l'Union africaine, c'est ni plus ni moins qu'un néocolonialisme judiciaire et, disons, une justice de vainqueur.
Mais la justice ivoirienne est-elle aujourd'hui indépendante? A-t-elle les moyens, justement, enfin, aurait-elle eu les moyens de juger Laurent Gbagbo?
Vous avez tout à fait raison. Hein, pour le moment, l'appareil d'État, comme a dit Doudou Ndiaye, le commissaire des droits de l'homme envoyé par les Nations Unies, l'État est fragile, voire déconstruit. Dans la ville d'Abidjan, il n'y a pas vraiment de police, puisque les commissariats sont occupés par les dozos, hein, donc de l'armée de M. Ouattara. Il y a plusieurs corps d'armée dans la ville, et il n'y a pas effectivement une justice indépendante. Alors effectivement, c'était le risque d'une justice de vainqueur interne, alors qu'actuellement, on risque d'avoir une justice de vainqueur internationale, au fond. Il faut choisir, tant pour les décideurs ivoiriens qu'internationaux, entre, au fond, une judiciarisation de la vie politique et des rapports de force toujours basés autour de la répression interne et militaire, ou alors un processus de pardon, d'amnistie et de réconciliation qui personnellement me semble plus favorable au retour à la paix civile.
Mais précisément, est-ce que vous pensez que quelqu'un aujourd'hui en Côte d'Ivoire a les moyens de relancer ce processus de réconciliation, ou est-ce qu'avec la comparution de Gbagbo lundi, avec la comparution de Gbagbo, c'est fini quoi?
C'est fini, sauf si éventuellement, étant donné que les deux camps, c'est reconnu par tout le monde, ont commis des exactions, quelqu'un de l'envergure de Guillaume Soro, je n'ose pas dire Alassane Ouattara parce qu'il y a peu de chances qu'il soit arrêté et déféré à La Haye, mais que quelqu'un comme Guillaume Soro, qui est responsable depuis 2002 de la rébellion au nord, en tout cas, et des exactions continues, plus des massacres comme à Douekwe ou lors de la conquête d'Abidjan, soit déféré à la cour de La Haye, ce qui montrerait aux Ivoiriens et à l'opinion publique internationale qu'il n'y a pas de poids de mesure et que les deux camps seront jugés.